Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à l'affaire Gostar versus État malien. La Cour suprême condamne l'État malien à payer 25 milliards de francs CFA, inclus les dommages et intérêts à un fournisseur. L'État n'avait pas totalement payé ce dernier après la livraison d'équipements militaires aux forces armées maliennes. Nos invités sur ce plateau, Boubacar Boukoum, politologue, Moussa Bendeka Diabaté, président de l'Initiative pour le changement au Mali et en Afrique, Speti Ag Agado, membre de la société civile. Je suis Fatmata Togola.
Le grand dialogue.
Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Boukoum. Selon vous, comment cela a pu se passer?
Merci. Vous savez déjà que nous sommes dans un état où généralement l'impunité est de mise. Donc du coup, dans l'administration, ceux qui fautent ne sont pas généralement sanctionnés. Donc du coup, personne ne se sent investi de la mission de bien et réussir la mission de l'État. Donc vous comprendrez aisément pourquoi ce genre de choses arrive fréquemment. L'État est généralement condamné à tous les coups parce que juste un agent de l'État a fauté, n'a pas fait correctement son boulot. Mais à la clé, il n'y a pas de sanction, donc la récidive, elle est toujours là.
D'accord. Alors, Monsieur Diabaté, selon vous, qu'est-ce qui s'est-il passé?
Je pense qu'on est dans un système qu'on n'a pas pu maîtriser, qu'on appelle démocratie. Je suis d'accord que la démocratie, c'est une bonne chose, mais la démocratie a ses règles et ses principes. Et parmi les règles et les principes, on parle de gouvernance. On parle de gouvernance, on parle de bonne gouvernance. Et les deux sont différents. La gouvernance, c'est la mise en place des institutions qui gouvernent un pays. La bonne gouvernance, c'est les instructions confiées à ces institutions pour la bonne marche et pour l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, on est dans, c'est pas seulement propre au Mali, c'est tous les pays africains. La société civile est toujours au départ par le fait qu'elle vote. Elle est au milieu parce qu'elle est bénéficiaire. Et elle est à la fin parce que c'est elle qui reçoit les conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Tout laisse à croire que tout ce qui s'est passé n'est que la conséquence des manques de programme de vision. On est dans un pays, comme je l'ai dit, c'est pas propre au Mali, on est dans un pays où il n'y a pas de vision. On se lève le matin brutalement, on prend les décisions. Aujourd'hui, pour avoir les informations sur le Mali, il faut écouter les chaînes internationales. Et quand je parle de démocratie, je colle à ce mot un des principes de la responsabilité sociétale qui en a 7. Et parmi les 7, il y a ce qu'on appelle la gouvernance. Et la gouvernance, il y a 8 principes, parmi lesquels il y a la redevabilité, il y a l'éthique, il y a l'information, il y a la communication, il y a la prise en compte des attentes des parties prenantes. Et ces parties prenantes, c'est cette société civile. Je parle de communication. On est mal à l'aise aujourd'hui même de voir ou de regarder la chaîne malienne parce qu'il n'y a pas d'information. Mais qu'est-ce qui se passe? L'État paye un avion. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est la façon de faire. C'est-à-dire qu'on a ignoré une société civile qui est là. On a zappé une société civile. Est-ce que l'achat de cet avion était inscrit dans un programme? Ce qui veut dire que est-ce qu'il y avait un programme? Oui, normalement, il devrait y avoir un programme. Mais comme on est dans un pays où il n'y a pas de programme, c'est de laisser aller. Donc, c'est envoyé vers.
Et concernant la livraison de ces équipements militaires?
Aujourd'hui, personne ne sait ce qui se passe. Donc, il y a un déficit de communication. Et il y a un déficit de redevabilité. On demande simplement à nos autorités de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et comment ils veulent le faire. Aujourd'hui, personne ne sait qu'est-ce qui se passe autour de cet avion. On va nous parler de décret de secret défense, mais c'est du pipeau.
D'accord, monsieur. Voilà. Nous allons venir à cette situation.
Oui.
Alors, monsieur Agado, quelle est votre observation par rapport à cette affaire?
Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette question-là. Je dirais tout simplement en tant que société civile, en tant que malien, citoyen malien, je suis abasourdi ce que je vois. Et mon impression, c'est que nous ne sommes pas dans une situation d'essai. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, à voir l'État capituler lorsque l'État lui-même se fait harakiri, lorsque ce sont les agents de l'État eux-mêmes qui créent les situations, n'est-ce pas, de voler l'État. Nous ne sommes pas surpris. Donc, on sait que dans cette affaire-là, c'est toujours les grands, c'est le président, c'est sa famille, c'est son entourage, c'est eux qui sont trempés dans cette histoire-là. Et on ne s'attend pas à ce que nous, Maliens, nous soyons victorieux, nous soyons remis dans nos droits. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on nous mette dans nos droits. Il y a eu des détournements, il y a eu des marchés passés dans des conditions les plus douteuses. Il y a eu de la gabegie, du gaspillage. Les vérificateurs fournissent des rapports par rapport à ce qui est détourné. On ne nous rend pas compte de ce que l'État a retrouvé par rapport à ces détournements-là. Au contraire, on nous montre un État qui est en train encore de sortir de l'argent pour donner à qui ? C'est le même club. Cette société-là, elle est complice. En tout cas, de notre point de vue malien, cette société-là, elle est complice avec ceux-là qui ont donné ce marché. C'est l'occasion de prendre de l'argent encore du contribuable malien et de distribuer. Voilà l'impression que nous avons.
D'accord. Alors, M. Bogoum, partagez-vous le même avis que M. Akado concernant la complicité de l'État et cette société ?
Non, je suis entièrement en phase avec lui parce que, comme l'a dit M. Diabato tantôt, en fait, le problème, c'est la bonne gouvernance. Donc, c'est la corruption qui a gangréné l'État dans tous ses démembrements et nous avons un comportement sociétal qui, en fait, pose problème et à beaucoup de niveaux. Donc, aujourd'hui, qu'on en arrive à ce genre de situation, comme il l'a dit, c'est pas surprenant. À tous les niveaux, les contrats sont passés sans qu'on comprenne comment. Quand il y a un agent de l'État qui commet une faute, on ne voit pas de sanctions à la clé. Donc, tu as d'un côté le problème de la corruption, tu as de l'autre côté le manque de justice, d'équité. Donc, tout concourt à amener le pays dans une situation où il n'est pas gouverné du tout. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens soient frustrés, offusqués. Et comme l'a dit tantôt M. Diabaté, souvent j'ai l'impression que notre État confond même l'information et la communication. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez l'ORTM, on a l'impression que l'ORTM, c'est une machine pour la famille du président et juste le gouvernement, alors qu'il s'agit d'un État. Donc, dans tous ces compartiments, cette chaîne nationale doit travailler pour le public. C'est vrai, c'est bien beau leur slogan, comme on dit leur thème, la passion du service public, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la bonne définition de ce que c'est que le service public. Ça ne se limite pas à faire passer le message d'un président ou à faire passer le président des différents ministres. Il s'agit de comprendre toute la problématique de la nation malienne et de communiquer avec et de faire le tandem entre l'État et la société civile et tous ces compartiments. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, personne ne s'attelle à cette fonction et c'est dommage, c'est désarticulé.
Ok, 20 milliards de francs CFA plus 5 milliards de francs CFA comme dommages et intérêts. Mm-hmm. Ne pensez-vous pas que cette somme est excessive ?
Bon, je ne sais pas, les armes, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est excessif ou pas. Mais déjà, c'est le principe qui pose problème. Ce n'est pas que ce soit 1 milliard, 2 milliards. On a vu par le passé, des usines, je prends l'exemple de la CMDT, des usines ont été payées qui n'ont jamais été montées. Des entreprises qui étaient chargées de la construction de ces usines se sont vues dédommager alors que le travail n'a pas été fait. Ils se sont retournés contre l'État pour dire qu'ils ont déjà approvisionné le chantier et qu'il va falloir qu'on les rembourse des procès. De toutes les façons, les entreprises sont dans leurs droits. Quand vous commandez une usine à une structure et qu'elle se mette à travailler, après vous dites on décommande, ça veut dire, comme l'a dit M. Diabaté, ça veut dire que nous n'avons pas de vision, nous ne savons pas ce que nous voulons. Donc du coup, le problème pour moi, ce n'est pas que ce soit 20 milliards ou 35 milliards, mais le principe même pose problème. Même si c'est un centime, personne n'a le droit de nous priver d'un centime dans ce pays sans qu'on ne sache à quoi il sert et qu'il soit objectivement et de façon efficiente bien investi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi la bonne gouvernance intervient dans ce cadre. Quand ils ont envie d'utiliser notre argent, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec l'argent. Est-ce que cela nous convient? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que ça nous sert à quelque chose ou pas? Donc c'est pourquoi il y a le Parlement, c'est pourquoi il y a les partis politiques, pour que ce débat soit bien nourri et qu'on sache réellement où est-ce qu'on va Donc cette divergence d'idées, cet antagonisme doit nous permettre d'avoir une vision claire par rapport à notre pays. Mais malheureusement aujourd'hui, le problème il est à sens unique. Tout le monde est du camp présidentiel, les partis politiques ont disparu, la société civile est plus ou moins manipulée par les politiques. Donc finalement, on va à sens unique. Donc la société civile elle-même réellement, bon, elle est muselée, elle n'a pas voix au chapitre, où voilà, ils sont en train de crier, bon, on les entend très peu.
D'accord. Et vous, M. Diabaté, qu'avez-vous à répondre au propos de M. Bekoum?
Je vous donne un schéma très concret en tant qu'ancien élu communal. Vous savez, pour donner un terrain à un citoyen, il y a des conditionnalités. Il faut qu'on prouve que la personne qui doit bénéficier du lot est dans le besoin. Deuxièmement, il faut les conditions de plan, de lotissement. J'étais conseiller communal en commune 3 pendant 7 ans. Le système, il est verrouillé. Le maire, il va de mal en pire. Quand j'écris officiellement au maire pour protester, la réaction du maire, c'est le gouverneur. La réaction du gouverneur, c'est le ministre. Tu écris au maire, il n'est pas inquiété. J'écris au gouverneur, le ministre, le gouverneur et le maire, ils sont du même parti politique. Donc c'est le citoyen lambda qui devient orphelin. Tout ce qui est en train de se passer, la question fondamentale, est-ce que c'était d'abord opportun de payer un avion? Parce que la meilleure arme de défense d'une population, c'est la satisfaction de ses besoins. Aujourd'hui, force est de constater que le Mali est un pays analphabète à 80-85%, quoi qu'on fasse comme manipulation dans les chiffres. Il y a deux jours seulement, j'écoutais les émissions ça et là, mais le besoin du Mali en éducation, première année seulement, c'est dans les 800 000 personnes par an. Alors, pourquoi mettre 20 milliards ou 25 milliards? Et ce qui est grave, c'est que tous ces fonds, toutes ces commandes sont données à un individu pour le compte d'un pays. C'est là où il y a la véritable catastrophe financière. Et cela est soutenu par les textes que nos hommes politiques ont posés en son temps pour se protéger. Aujourd'hui, la saisine de la Haute Cour de justice, une fois, il y a eu un débat là-dessus, qui peut saisir la Haute Cour de justice pour porter plainte contre le président? Personne ne peut attaquer le président, ni les ministres en exercice. C'est la Haute Cour de justice. Et pour attaquer le président via la Haute Cour de justice, il faut que les deux tiers des membres de l'Assemblée votent. Or, il se trouve que la majorité, 70% des membres de l'Assemblée sont de la mouvance présidentielle. Donc, qui perd? C'est le citoyen qui perd. Il y a une véritable refonte à faire au Mali. Ce qu'on est en train de vivre n'est pas grave. Il faut que maintenant qu'on fasse l'état des lieux pour éviter et protéger les générations futures. Développement durable. Aujourd'hui, on a tout compris dans la démocratie. C'est des individus qui viennent s'enrichir sur le dos de l'État. Et je vous dis, les 40-50% des membres du gouvernement ont tous la double nationalité. On ne fait pas l'analyse de ce qui se passe à côté de nous. La conséquence de ça, c'est évident que c'est des gens qui s'enrichissent. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Blaise Affine, il est venu en Côte d'Ivoire, on lui donne la nationalité. On ne peut plus l'attaquer. Le cas du Mali, pour revenir au cas du Mali, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, ils ont tous la double nationalité. Ils vont tripatouiller dans les fonds publics du Trésor. Après, ils quittent le mandat. Ils vont s'asseoir dans un autre pays. On ne peut plus les toucher.
Mais cette fois-ci, c'est l'État qui doit verser la somme.
Quand on parle de l'État, oui, c'est macro. Mais il y a des individus qui agissent au nom de l'État. L'État est une couverture. Ce sont ces individus qu'il faut attaquer. Mais comment attaquer ces individus? Dès l'instant qu'ils ont la casquette de président, ils ont la casquette de ministre, ils ont la casquette de directeur, ils sont protégés par les textes. C'est ça le problème. Et le problème aussi va au-delà. Là, c'est ce que j'ai dit, la pertinence de l'achat d'un avion militaire. Qui est allé faire l'achat? Dans quelles conditions? Est-ce que c'était programmé pour résoudre quel problème? C'est ça la vous parlez d'avion. Allez-y voir dans les mines. Je viens de finir une mission dans les mines. Au Mali, aujourd'hui, on a 3 codes miniers. On ne sait pas sur quel code minier il faut aller. C'est grave ça, c'est dans un pays. Si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est tout comme quelqu'un qui rentre dans une sotrama, il ne sait pas où il descend.
Mais il ne s'agit pas que d'avions seulement, mais il y a d'autres équipements militaires qui ont été fournis.
Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais qu'est-ce qui est vrai? Tantôt, j'ai parlé de communication. Tantôt, j'ai parlé d'information. La communication est un produit qu'on te donne, tu consommes. L'information, je veux dire. Mais la communication, c'est un brainstorming. On s'assied, on discute, on échange. Mais au Mali, quel est le cas qu'on voit? Il n'y a que la communication. On te donne seulement une information, tu n'as aucune opportunité de vérifier. Et aucune structure au Mali ne se donne la peine, quel que soit son statut et ses pouvoirs, de vérifier la fiabilité, la qualité de l'information qu'on donne. Donc c'est le laisser aller, c'est envoyer vers.
D'accord. Alors, Monsieur Akado, êtes-vous avec nous?
Oui, je suis.
D'accord, vous venez...
Je suis.
D'accord.
Je suis parfaitement d'accord avec ma prédécesseur qui ont quand même suffisamment analysé la situation grand-verrée du Mali. Et au-delà du Mali, bien sûr, on se plaît même à dire tout le monde fait ça. Donc finalement, c'est devenu tellement normal de tricher, de voler. Alors moi, je suis seulement étonné de voir que on nous parle que je vous entends parler tout de suite de l'État. C'est l'État qui. Mais l'État, c'est l'État qui a donné, qui est l'acteur principal dans l'attribution des marchés. Où est cet État-là? Pourquoi il ne nous fait pas la lumière sur l'avion? Pourquoi il ne nous fait pas la lumière sur les responsables de surfacturation? Les Maliens attendent, n'est-ce pas, des comptes par rapport à cette situation-là. Mais au lieu de ça, on nous montre un État encore qui est prêt à sortir l'argent du contribuable malien pour le donner à ce même État. Parce que pour nous, l'État, c'est tous ces comploteurs-là. Qu'il s'agisse des commerçants, qu'il s'agisse de l'étranger, qu'il s'agisse des premiers responsables du pays, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans tous les cas chargés de veiller sur le bien public. C'est tous ces gens-là, l'État, et malheureusement, on ne nous rend pas compte de ce qui se passe. On nous accuse plutôt. Pour répondre un peu sur un des propos d'un de mes prédécesseurs qui parle de la majorité des Maliens qui sont analphabètes. Mais le problème du Mali, ce n'est pas l'analphabétisme. Le problème du Mali, c'est que le Mali est victime, n'est-ce pas, de ces cadres, est victime de ceux-là qui ont été à l'école, est victime de ceux-là qui ont les plus gros diplômes. C'est eux les grands. Quand j'entends un ministre de la République tel que Tapo dire que les surfacturations ne sont pas un crime. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? On est dans quel pays? Sous la casquette d'avocat, il se permet de dire que les surfacturations ne sont pas un crime. Mais lorsqu'il était ministre il y a quelques jours, qui va défendre le citoyen malien? Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de questions à se poser. Il n'y a qu'une seule alternative, c'est-à-dire que la société civile, tout simplement, en tout cas la société civile responsable, doit prendre les choses en main. Je ne sais pas pourquoi la plateforme Anté-Abana a arrêté, n'est-ce pas, d'acculer ces gens-là, parce que il s'agit de ça. Le problème, ce n'est pas seulement la constitution que ces gens-là ont voulu nous porter de force, mais c'est aussi ce système de vol organisé, de détournement organisé dans lequel ils nous ont installés depuis la venue de la démocratie. Finalement, ce sont ces fameux démocrates-là qui sont en train de créer les conditions de ruiner, n'est-ce pas, les espoirs du peuple. Et ça, il faut que les gens s'organisent. Sinon, on n'attend rien de cet État-là, ni de son opposition, ni de ceux qui sont dans la majorité. Ils sont tous responsables. En tout cas, ils sont tous unanimes sur cette façon de gérer le bien public, c'est-à-dire de détourner avec la complicité des avocats, avec la complicité de la Cour constitutionnelle, avec la complicité des étrangers. C'est dans ça qu'ils nous ont installés depuis l'avenir de la démocratie.
Monsieur Akado, donc direz-vous que cette affaire serait une forme de détournement de fonds encore?
C'est un détournement. Nous sommes tout simplement dans la veille des élections. Il faut chercher de l'argent. Voilà, il faut chercher de l'argent pour assurer la réélection. On a fait le remaniement l'autre jour. Nous avons vu comment ça s'est passé. Nous savons que c'est une équipe de campagne. Nous voyons cette affaire-là surgir du néant, alors que les Maliens s'attendent à ce que les voleurs soient arrêtés, soient punis. Non, non, non. C'est l'État qui doit sortir de l'argent pour donner à qui? Aux complices de ceux qui ont passé les marchés, c'est-à-dire la famille présidentielle, c'est-à-dire tous ces gens-là qui travaillent avec le président aujourd'hui même. Dans tous les cas, l'argent de l'armée, l'argent destiné à l'armée, nous avons l'habitude de le voir être détourné. Et c'est ce qui a foutu notre armée, c'est ce qui a mis notre pays à genoux. C'est ce qui a fait qu'on n'est pas capable de se défendre aujourd'hui. Aujourd'hui, où nous comptons plus de morts dans l'armée, où notre armée est inopérationnelle, c'est aujourd'hui que des gros montants sortent pour le budget de l'armée. Ça n'ira pas dans la défense de la nation, tout le monde le sait, ça ira dans les comptes des gens, et ces gens-là, ils sont connus. Ils sont les proches du président de la République, ils sont ses ministres, ils sont ses enfants, ils sont ses amis, etc., etc. Tout le monde le sait. Et c'est ça que la société civile doit absolument arrêter aujourd'hui.
D'accord. Alors, M. Diabaté, vous venez d'entendre M. Agado. Pensez-vous que cette affaire est une forme de détournement aussi?
C'est un crime. Quand vous parlez de détournement, vous les arrangez, c'est un crime. Parce que... Imaginez tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Si c'est leur propre argent, ils vont pas se comporter ainsi. Donc ça veut dire qu'ils s'en foutent, quelles que soient les conséquences néfastes sur la population, mais que leur intérêt soit satisfait. Il a dit tantôt, c'est pour des intérêts personnels. Bon, lui, il a parlé de préparation d'élections. Moi, je vais loin. Là, ce n'est même pas les préparations d'élections, parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus revenir aux affaires. Mais comment faire pour pérenniser leur niveau de vie durant tout le reste de temps qu'ils vont faire sur Terre? C'est surtout ça. Mais ce qui est encore, je le dis et je le répète encore, tout ce qu'on est en train de vivre sont inhérents à un État. Nous sommes en train de traverser des périodes extrêmement difficiles. Mais ce qui est important, avoir un problème n'est pas grave. Mais ne pas pouvoir trouver de solution au problème, c'est ce qui est grave. On est en train de vivre une période de la vie qui ne se répétera pas au Mali. À nous maintenant, qui sont la génération pas impliquée dans ce tripatouillage, de voir en quoi est-ce qu'on peut être utile pour notre pays, pour apporter des solutions afin que tout ceci puisse s'éterniser. Parce qu'en Afrique, c'est dans la démocratie que les médiocres arrivent au pouvoir. Hein. Tous ces membres du gouvernement-là, tu les prends, tu les fais un test, ils ne peuvent pas accéder à un gouvernement. Parce qu'on est dans des pays médiocres. Mais médiocres comment? Parce que à l'aune de la démocratie, tout est parti sur la base des textes. Et les textes ont été faits taillés à l'image des intérêts des personnes qui étaient là. Aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences de la faiblesse des textes. Sinon, comment un président ou un ministre peut se lever pour dire que détourner n'est pas un crime? Tantôt, on parle de sécurité irrésiduelle. C'est des termes que moi, j'ai fait beaucoup d'études. Insécurité résiduelle, c'est au Mali, j'ai entendu parler de ça. Mais vous demandez à Manassa d'aller à Kidal pour saluer un parent, elle n'ira pas. Alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez par procuration pour protéger des individus, des intérêts personnels au détriment de tout un État. Alors, vraiment, ça, c'est déplorable.
D'accord. Alors, M. Bokoum, qu'en dites-vous?
Oui, je suis totalement en phase. Comme il l'a dit, c'est une mafia. Et je me rappelle bien en 91, quand nous avons commencé à critiquer le principe soi-disant démocratique, on nous a dit que nous étions des apatrides. Juste que, effectivement, le mouvement démocratique que nous avons connu en 90, tout le mensonge est parti de là. Tout le mensonge est parti de là. Donc, encore, c'est le même grain qui est en train de se passer la main. C'est eux qui gèrent les affaires de l'État aujourd'hui. Qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, et que ce soit les partis satellites qui gravitent autour, c'est exactement les mêmes. Donc, du coup, comme M. Diabaté l'a dit tantôt, les textes ont été faits à leur mesure, parce qu'aujourd'hui, même quand vous prenez l'article, si j'ai bonne mémoire, 121 de notre Constitution, qui dit que le crime, le coup d'État, le putsch ou le coup d'État est un crime imprescriptible. Je suis d'accord que ce soit un crime imprescriptible. Mais qu'est-ce qui amène un coup d'État? C'est la mauvaise gouvernance. Mais pourquoi la Haute Cour de justice, qui est chargée de veiller au grain, n'est pas fonctionnelle? Pourquoi le tribunal militaire, qui est chargé de juger les affaires militaires, n'est jamais opérationnel? Ça veut dire qu'il y a une opacité totale autour de la gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle direction on va exactement. Donc du coup, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, les gouvernants, quand vous regardez, quand il y a un remaniement ministériel, il y a juste un rétoilettage, quelques-uns qui s'en vont, quelques-uns qui changent de poste, quelques-uns qui reviennent, comme si les Maliens n'avaient aucun niveau pour pouvoir accéder aux affaires publiques ou de pouvoir gouverner. Donc c'est un cercle fermé dans lequel, si vous voulez appartenir à ce cercle, il faut que vous acceptez de jouer le jeu. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous êtes rentré dans le système, une fois que vous avez volé, vous êtes répertorié comme tel. Ça veut dire que vous faites partie du groupe. Il vous est difficile de vous en écarter. Parce qu'en ce moment, ça devient compliqué. Donc du coup, ceux qui ne sont pas rentrés, c'est très compliqué quand vous arrivez avec une vision. Vous voulez réellement gérer, il n'y a pas de place pour vous. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les partis politiques sont minés. La société civile, elle est minée. Et le gouvernement, c'est pire. Donc du coup, c'est une mafia bien organisée, bien huilée, bien rodée, dans laquelle effectivement tous ceux qui veulent effectivement voler acceptent aujourd'hui d'aller à ce genre de gouvernement. Maintenant, les cadres qui ne veulent pas se mouiller dans ce genre d'affaires restent. C'est le seul pays au monde où j'ai vu que les meilleurs cadres sont au chômage. Aujourd'hui, quand vous observez réellement nos grands intellectuels, 80% sont des ivrognes parce que tellement ils ont été meurtris. Ils ont été écartés du système. On les a mis carrément à côté. Et la plupart du temps, c'est dans les bars, dans les rues que vous les retrouvez. Ils ne sont jamais fonctionnels, ils ne sont jamais opérationnels. Ils n'ont pas voix au chapitre. Comme M. Diabaté l'a dit, c'est toujours les médiocres, les opportunistes, les gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable, qui acceptent de rentrer dans les différents systèmes et ils sont mouillés jusqu'au cou. Malheureusement, la difficulté que celui qui est au téléphone vient de noter tout à l'heure par rapport au mouvement anti-Abana. Vous savez, c'est très compliqué chez nous aujourd'hui d'avoir un mouvement qui a une synergie d'action pour faire déplacer les choses sur le long terme. Pourquoi ? Parce que nous avons des intérêts divergents. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas une vision globale de perspective avec un plan linéaire, bien visible et bien lisible. Donc du coup, une fois que nos intérêts convergent à un moment donné, effectivement, nous pouvons faire une activité ensemble, mais après cette activité, chacun va à ses affaires, si je peux utiliser cette expression. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement anti-Abana, quand il y avait l'histoire de la Constitution, avec certains partis politiques qui n'étaient pas totalement d'accord avec le gouvernement, ils sont allés à la front. Mais le problème, c'est que le vrai problème du Mali n'est pas posé. Si on a posé concrètement où va le Mali et comment on va y arriver et que cette problématique elle est bien résolue, je pense que beaucoup de concitoyens vont se retrouver dans cette dynamique et on aura la synergie nécessaire pour aller au changement souhaité.
Je voulais ajouter un point important. Il a souligné les événements de 91-92. Aujourd'hui, avec le coup d'état de Aya, on a vu tous les pays de la CEDEAO s'agiter autour du Mali, antidémocratique. Mais au fait, est-ce qu'on s'est donné la peine de chercher à savoir qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État ? Est-ce que le coup d'État, il est seulement militaire ? Il n'est pas seulement militaire. Le coup d'État, il est économique. Le coup d'État, il est social. Il est culturel. Aujourd'hui, tu fabriques un faux billet. On te prend, on te met en prison, après tu t'en vas. Des responsables maliens qui ont détourné des centaines de milliards qui ont été attaqués par la justice, emprisonnés. On a vu ces gens, on les a simplement et purement libérés. Au même moment, il y a des gens qui sont dans la prison qui ont plus de 20 ans pour affaire de 5 000, 10 000, 50 000. Vous pensez la rébellion, ce n'est pas ceux qui sont au nord qui font la rébellion. La rébellion est la conséquence de la non-satisfaction des besoins d'une personne. Moi, j'ai ma maison. Toi, tu viens me dessaisir de ma maison parce que tu es de la mouvance présidentielle, parce que tu es dans les affaires. Je n'ai aucun moyen de recours. Pourtant, tous les textes sont là pour endiguer ce fléau. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est moi seul qui le sais. Mais je vais aller dans le djihadisme. Le djihadisme, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le nord, c'est la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, les cassettes piratées, ces artistes, vous, les journalistes, etc., vos produits, les gens le payent, ils s'enrichissent sur ça, sans vous donner une contrepartie. Mais il suffit de toucher à l'intérêt d'un président, c'est la justice qui s'en va. Je suis au regret de noter quand l'Union africaine, lors d'un sommet, quand la question a été posée de se retirer du tribunal international, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Que le chef d'État ne soit pas traduit devant le tribunal. Ça veut dire que la population peut être traduite. Vous pensez qu'on est dans un système normal ? Vous qui représentez nos populations, vous partez à un sommet, vous dites que non, c'est vous seuls qui ne serez pas traduits, mais le reste de la population peut être traduit. C'est pour ça qu'on a introduit on a élargi la notion de la saisine du tribunal. Aujourd'hui, tout le monde peut saisir la Haute Cour de justice. Mais pourquoi on n'en fait pas chez nous au Mali ? Parce que les textes sont verrouillés et on se permet de faire ce qu'on veut.
C'est ça.
Ok, pour revenir à ces 25 milliards,
oui.
Je voudrais vous demander, est-ce que vous ne pensez-vous pas que si au cas où ces 25 milliards seront décaissés par l'État, est-ce que ça ne va pas peser sur l'économie du pays?
La question d'abord, est-ce que l'économie aujourd'hui peut payer? Non. Vous savez que le budget de l'État est soutenu à 40% par l'aide bilatérale et multilatérale. Les 60% qui sont supposés être les ressources internes, l'État n'a pas, ne peut pas capter les 10% des 60 milliards, des 60%. Donc on est toujours tributaire de l'extérieur. On est loin du développement. Le développement, c'est la maîtrise de son environnement. Quelqu'un qui ne maîtrise pas son environnement, tu ne te développes pas. Un. De deux, le développement est lié à trois conditions. Il faut avoir ta langue, il faut avoir ta monnaie, il faut avoir ta population. Pour revenir aux 25 milliards, l'État ne peut même pas payer. Le ministre des Finances, quand il était nouvellement venu, je parle de Boubou Cissé, la dette intérieure de l'État était estimée à 210 milliards de francs CFA. Il a mis une commission en place pour vérifier la véracité. Il s'en est sorti avec 20 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 210 milliards supposés être la dette intérieure, il n'y a que 20 milliards qui sont justifiés. Les autres 190 milliards, c'est du faux. Mais du faux fait par qui? Avec qui? Et comment? Et quand? On est dans ce même système. Tout le temps, c'est la même chose. C'est ce que j'ai dit. Ce qu'on est en train de vivre n'est pas grave. Les 25 milliards, l'État ne paiera pas. L'État n'a jamais gagné un procès au Mali. C'est une chaîne montée. C'est un réseau. L'État n'a jamais gagné. ATT l'a dit. Le tribunal, le siège du tribunal à Badarabougou, il a demandé aux hommes de droit, trouvez-moi un endroit, je vais construire un siège pour vous. Eux-mêmes sont allés chercher un endroit. Ils ont tout regardé, ils ont tout vu, tout était bon. Au moment où l'État construit, quelqu'un se présente avec un titre foncier. Alors que c'est la justice même qui était impliquée dans ça. Comment vous pouvez comprendre cela? Tout ça, c'est des situations qui nous interpellent. Aujourd'hui, moi je dis, la classe d'hommes politiques qu'on a aujourd'hui a atteint ses limites. Ce n'est pas seulement les 25 milliards. Vous vous raisonnez en termes monétaires. La vie humaine n'a pas de prix. Mara est parti à Kidal. Combien de personnes sont mortes là-bas? C'est 100 fois supérieur à 25 milliards. Mais pourquoi on ne les quantifie pas? Pourquoi on ne les évalue pas? Pourquoi on n'en fait pas un débat? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. C'est la faute à qui? Personne ne le sait. Ceux qui sont morts, c'est eux qui sont les perdants. Donc c'est ça le vrai problème. Pour finir, moi je dis simplement qu'il faut qu'on reste serein. On a tiré suffisamment d'enseignements, on a connu maintenant que valent nos hommes politiques, quel langage ils nous tiennent. Il faut que nous-mêmes, nous arrivions à se ressaisir, à se mettre autour d'une table, voir, si possible, c'est un exemple que moi je donne, c'est un langage que moi, sortir un prototype d'homme politique dont on a besoin, avec des critères. Mais vraiment, s'il faut aller dans cette démocratie, bon, les gens s'agitent. Je veux bien, la démocratie, c'est le meilleur moyen de gouvernance. Aujourd'hui, je te donne l'exemple, vous parlez de 25 milliards. À Sitakili, je viens de finir une mission. Le maire de Sitakili reçoit 1 milliard 22 millions de francs CFA dans le cadre des patentes. Il n'y a pas d'eau potable dans son village. Il n'y a pas d'école dans son village. Il n'y a pas d'habillement dans son village. Il n'y a pas de courant dans son village. Comment vous pouvez comprendre ça? 1 milliard 22 millions de francs CFA, c'est ce qu'il reçoit comme patente par an.
D'accord. Monsieur Diabaté, nous allons revenir à vous. Alors, Monsieur Agado, êtes-vous du même avis que Monsieur Diabaté concernant le fait que l'État ne paiera pas cette somme?
L'État ne paiera pas. Ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Et moi, je pense plutôt que quand il dit que l'État n'a pas d'argent, nous, on ne sait pas ce que l'État a. Ce qu'on sait, c'est que l'État est riche. L'État a de l'argent. L'État a de l'argent et l'État va payer pour ceux, n'est-ce pas, qui ont créé cette situation-là, parce qu'ils ont créé justement pour prendre l'argent du contribuable malien. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout qu'il ne faut pas qu'on continue à consommer, n'est-ce pas, ces malversations-là, ces dérives, n'est-ce pas, faites par nos dirigeants. Il est grand temps que les Maliens se réveillent pour dire que c'est notre argent. C'est notre argent, c'est notre avenir qui est en train d'être mis en jeu comme ça. Et par conséquent, il n'est pas, moi je dirais qu'il est important d'inviter les Maliens à se saisir de cette occasion-là pour se lever. Non seulement refuser que cet argent-là sorte de nos caisses, mais aussi de réclamer, n'est-ce pas, justice par rapport aux responsables de surfacturation, aux responsables de l'achat de l'avion, aux responsables de tout ce qui nous cache. Ce que nous devons savoir,
N'est-ce pas? Il est grand temps qu'on se lève. Il faut se mobiliser. On ne peut pas continuer à encaisser des coups. Jusqu'à quand on pourra encaisser des coups? Quelqu'un l'a dit en début de démission, c'est que tous ces gens-là ont la double nationalité. Ils sont dans la logique de ruiner le pays et de partir, comme d'ailleurs la plupart des chefs d'État africains le font. C'est comme ça qu'ils pensent. Alors, il ne faut pas, continuer de leur laisser l'occasion, le champ libre. Moi, je pense que mon analyse m'amène à dire tout simplement que nous sommes très, très inquiets quant à la volonté et à la capacité, n'est-ce pas, de ce pouvoir-là de nous sortir des difficultés. Parce que moi, je vais faire le parallèle avec l'insécurité, avec les problèmes que vit notre pays aujourd'hui. Moi, je pense que si d'un côté, les bandits, les voleurs, les terroristes, les djihadistes, toutes ces mauvaises gens-là sont en train de nous mettre à genoux, de mettre le pays à genoux, c'est parce que, quelque part, les pouvoirs qui ont la charge première, la responsabilité première de nous sortir de difficultés sont plus criminels, n'est-ce pas, que ces criminels-là. Et ensemble, ils complotent contre nous. Ensemble, chacun gère quelque chose à son compte. Si le Nord, le Centre sont gérés par ces bandits et djihadistes-là, le reste du pays est ruiné, n'est-ce pas, par ces pouvoirs-là. Et ensemble, ils se retrouvent, ils partagent les ressources de la nation. Nous, c'est ce que nous voyons et c'est ce contrat que nous faisons. Alors, la société doit dire halte. On s'est assez joué de nous. Aujourd'hui, nous comprenons que les problèmes du Mali ne pourront pas trouver leur solution avec ces gens-là. Ni les groupes signataires des accords, ni le pouvoir qui les a signés avec eux, ils sont tous dans un complot contre ce pays-là et il faut les arrêter. Moi, c'est à ça que je veux réellement inviter les Maliens.
D'accord. Alors oui, M. Moukoum.
Oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire tout à l'heure. Vous savez, nous sommes chez nous, dans notre pays, généralement dans l'émotionnel. Nous ne sommes pas inscrits réellement dans le durable. Chaque fois qu'il y a eu un problème, les gens se sont indignés, les gens ont parlé, mais jamais on ne s'est assis réellement, comme l'a dit tantôt M. Diabaté, pour s'inscrire dans une logique du durable. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de dire que ces dirigeants ne sont pas bons. C'est très difficile aujourd'hui de changer la nature de ces dirigeants, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas changé de comportement. Donc la problématique, elle est plus complexe qu'on ne le pense en réalité. Parce que chaque fois que vous avez enlevé un dirigeant, regardez des années 60 jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents que nous avons eus, au moment de partir, ils ont été hués et après, on les voit en héros. Parce que chaque fois que nous avons chassé un président, nous n'avons pas fait mieux. Donc du coup, nous regrettons. Alors que la logique voudrait que pour qu'on sache un président, il faut qu'on ait une vision de qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui. Aujourd'hui, je prends l'exemple des années 60. Quand vous voulez parler, vous voulez faire le bilan du régime de Modibo Keïta, vous vous trouvez tout de suite harcelé par ses collègues qui ont vécu cette époque. Parce que pour eux, tout est positif, on ne doit pas le critiquer. C'est comme un saint qui est là. Vous prenez la période de Moussa Traoré, pendant qu'il était au pouvoir, quand il est tombé, après on a dit que non, c'est à peine si on ne l'a pas traité d'un saint. Et récemment, Atete a été accueilli à Bamako ici de façon effarante. Ça veut dire quoi? Et pourtant, on ne peut pas dire que ces différents dirigeants ont bien gouverné et qu'ils ont fait avancer le pays. Non, ce n'est pas vrai. Donc si les intellectuels n'ont pas le courage moral de s'asseoir et de voir réellement qu'est-ce qui a marché des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Quand nous disons que nous sommes indépendants, de quelle indépendance nous parlons? Quand nous voulons parler d'économie, mais nous voulons parler de quelle économie? L'économie réelle ou cette économie tributaire des Occidentaux où on traîne par le bout du nez, on nous amène n'importe où et on est prêt à les suivre. Donc, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, on s'assume. L'autre jour, j'ai écouté une intervention du président ghanéen qui était en train de parler à M. Macron. Mais j'avoue que de façon intellectuelle, j'étais vraiment très à l'aise. Un message clair, limpide, qui devrait inciter les chefs d'État africains à se réveiller pour dire qu'on n'attend pas l'aide des autres et que nous-mêmes, on doit travailler et nous avons des ressources. Aujourd'hui, quand tu prends un pays comme le Mali, ne serait-ce qu'en eau, traversé par 1 700 000 et quelques kilomètres de fleuve, le nord qu'on dit être défaillant. Moi, je connais un peu le nord, je connais Goundam, le lac Télé, Oro, Faguibine et tout ça. Le lac Télé à lui seul peut nourrir la totalité du Mali. Donc, comment se fait-il que cela est là. Diabaté vient de parler des mines tout à l'heure. Nous avons des mines d'or. Nous avons des intellectuels dans ce pays. Mais tout le monde a été mis à genoux. Les intellectuels, ils sont mis dans des placards. Ceux qui peuvent produire, je parle bien des intellectuels qui sont capables de produire, ils sont mis dans les placards. Les unités qui auraient dû nous rapporter quelque chose en termes de valeur ajoutée, soit ils sont mis sous tutelle ou ils sont revendus à des multinationales. Et les royalties, là, c'est eux qui en profitent. C'est pas les citoyens lambda qui profitent de ça. Donc, ils sont toujours actionnaires dans ces grandes sociétés. Ils sont tous actionnaires à la bourse. Et le Malien, il est dans où dans tout ça? Donc la réalité, comme M. Diabaté l'a dit, nous sommes vraiment dans une crise de gouvernance. Et il faut que la société civile se réveille, qu'on comprenne. Il a dit tantôt que les Maliens à 80% sont analphabètes. Oui, c'est vrai, mais je pense que les Maliens, analphabètes, oui, mais on n'est pas cons. Les gens, ils comprennent bien le message. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu les leaders que nous voulons, qui ont le leadership, qui peuvent bien communiquer avec leur peuple. Parce qu'il s'agit de transmettre un message à ce peuple et de faire rêver ce peuple par rapport à un changement réel. Moi, je dis à un homme politique, il n'y a pas encore une semaine, je lui ai dit, mais vous voulez être président de la République, mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez apporter au peuple malien? Vous voulez nous ouvrir 10 bouteilles d'eau minérale? Dites-moi comment vous allez les obtenir. Donc, on ne demande pas des choses extraordinaires. C'est des choses très simples que nous voulons. Le peuple, il veut aujourd'hui manger. Il veut la sécurité. Mais que ces gens nous disent comment ils comptent apporter la paix au Mali. Comment ils comptent développer l'économie malienne. Notre or, qu'est-ce qu'ils comptent en faire? L'eau que nous avons qui coule, qu'est-ce que nous en faisons? Et le citoyen malien, quel modèle de citoyen malien aujourd'hui nous voulons? Un citoyen malhonnête, un citoyen honnête qui veut servir sa patrie, voilà quel modèle. Donc il faut que nous mettions donc du contenu dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, ce qui est en laisse réellement, c'est cette partie de l'éducation citoyenne. Parce que vous ne pouvez pas construire une nation si vous n'avez pas des hommes bien éduqués, qui comprennent bien l'enjeu, où le peuple les attend, où la nation les attend. Donc chacun d'entre nous a des devoirs vis-à-vis de ce pays qui nous a pratiquement tout donné. Donc il s'agit maintenant de rendre l'ascenseur à ce pays qui a vraiment besoin de nous.
D'accord. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui, M. Diabaté, allez-y.
Je voulais juste dire deux choses. Aujourd'hui, au niveau du TPI ou des institutions juridiques, on parle de justice transitionnelle. La justice transitionnelle vient du Rwanda. Le Rwanda n'a pas de ressources minières. Le Rwanda n'a rien. Il a dit tantôt, tout développement part de la terre. Nous, on a l'eau, on a les hommes, mais on n'a pas les hommes de qualité. C'est ça notre problème. On a la terre, on a les hommes. La France a quoi? La France a le vent et l'eau, mais c'est la tête qui tourne. Nous, on n'a pas cette masse intellectuelle qui pouvait propulser le Mali. Le Rwanda n'a aucune ressource minière. Le Rwanda est un exemple aujourd'hui dans le monde. La justice transitionnelle dont on fait mention vient du Rwanda. Parce que Kagame, il est venu avec une vision. Nous, on n'a pas de vision. On est mu par le sentiment, par l'émotion et non par le discernement. Et c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, je suis au regret de le dire, l'État se trouve dans les religions. Alors que c'est les religions qui devraient se trouver dans l'État. Quand un chef d'État va plébisciter un chef religieux qui se trouve dans une organisation religieuse, je n'attaque pas religieusement, mais je suis religieux, vous êtes religieux, tout le monde est religieux. Mais je pense qu'il faut que l'État soit fort pour dire, écoutez, Madame Togola, votre place est ici. Bendeka, votre place est ici, etc., etc. On est dans un désert. Imaginez quelqu'un que vous enlevez de la prison. A priori, vous l'avez libéré, mais vous le mettez dans le désert. Dans le désert, est-ce que vous l'avez libéré? Il n'a pas sa liberté. On vit dans une situation.
Merci, M. Diabaté. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Un mot de la fin, M. Akado, avant de boucler ce débat.
Vraiment, je vous remercie. Je termine par dire bonsoir à mes collègues, à mes frères avec lesquels j'ai conduit ce débat-là. Je les félicite par rapport à leurs analyses. Et je dis tout simplement, moi et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, Maliens indignés et porteurs de solutions, ensemble, n'est-ce pas, nous avons le devoir d'imposer une alternative à notre pays. Il ne s'agit pas de critiquer, de faire le constat, il s'agit vraiment qu'on se donne la main pour construire quelque chose pour nos progénitures. C'est ce que j'ai envie de dire par rapport au mot de la fin. Je vous remercie.
D'accord, merci beaucoup. beaucoup, M. Akedo. Cela met fin à ce débat sur l'affaire Gostar versus Etamelian. Un grand merci à nos invités, Boubacar Boukoum, politologue, Moussa Bende Kadjabaté, président de l'initiative pour le changement au Mali et en Afrique, Spéti Agado, membre de la société civile. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Noundjiré. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Moumine Senebou et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.